En cette fin de janvier, le dernier jour de janvier, c'est la fête d'un saint, encore un grand saint, Saint Jean Bosco. Un saint moderne, un saint du siècle dernier, un saint vraiment très, 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 très intéressant. Enfin, moi qui me passionne, qui m'a passionné depuis mon adolescence, j'ai essayé de bien loin, comme une fourmi qui suit un éléphant, à limiter, ça m'a porté à m'intéresser à un itinérant, et lui, il s'en est chargé de centaines, de milliers. C'est tellement fantastique qu'on se dit, comment a-t-il pu faire, hein? Mais pourtant, on a écrit au sujet de Saint Jean Bosco un petit texte extrêmement intéressant disant un saint qui nous ressemble. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Voici ce texte. Après la vénération enthousiaste et pas trop regardante, qui nous fit voir en Don Bosco un être exceptionnel, un super saint, quand ce ne fut pas un Superman, nous voilà devenus fort sensibles à ce qu'a été dans la vie de chaque jour l'abbé Jean Bosco, avec ses problèmes, les siens, et les innombrables que soulevait sa mission. Vous allez voir tout à l'heure, c'est pas piqué des vers sa vie, il a eu des tas de problèmes. Et on ajoute, nous nous méfions d'une sainteté si sublime qui gomme cachérature et rejette dans l'éther mystique, enfin dans le rêve si on veut, cet homme de chair et d'os, fougueux et têtu, même s'il est obstiné dans une mission qui vient de l'Esprit Saint. Il eut ses coups durs, il ne fit pas toujours plaisir à tout le monde. Il rencontra l'échec dans les hautes sphères vaticanes comme à la base. Il a souffert le mépris et le qu'en dira-t-on calomnieux. Il fit souffrir parfois, il l'a dit lui-même. Il a manqué de foi, il l'a redit. Et il a eu ses accès d'amour propre. Parce que c'est difficile, il passait pour un saint partout, il faisait même des miracles. Alors c'est très embêtant faire des miracles, j'imagine. Et le texte se termine ainsi, on en arrive presque le découvrant comme quiconque, là, happé et mâché par la vie de tout le monde et de tous les jours. Il l'a trouvé d'autant plus attachant. Je crois que ça résume très bien. C'est un homme très près de nous. Malgré une vie où il y a des éléments peut-être de légende. Ça me tente de dédier cette émission à Father Emmett Jones. Je l'ai connu quand il était séminariste. Ce prêtre catholique de langue anglaise qui parle bien français, on l'entend à la télévision assez souvent, et c'est lui qui a fondé le bon Dieu dans la rue et qui ramasse justement ces jeunes gens qui aujourd'hui sont encore plus perdus que les jeunes de l'époque de Don Bosco. Jean Bosco, mais son père est mort lorsqu'il avait 2 ans, et sa mère s'appelait Marguerite. Elle est d'ailleurs, elle risque d'être béatifiée, canonisée, sa mère, hein. Il est né le 16 août 1815 à la campagne. On raconte qu'une nuit, Jean avait fait un rêve qu'il a raconté plus tard. Et ce rêve est très, très important dans sa vie. Peut-être qu'un jour, je vous raconterai un rêve que j'ai fait dans ma jeunesse, comme ça, où j'avais à peu près 14 ans. Et c'est drôle, j'ai rêvé ma vie. C'est très étrange. Ça doit arriver à beaucoup de monde, j'imagine bien. Voici le rêve qu'il raconte, Saint Jean Bosco. Vous savez que on peut l'appeler facilement Jean Bosco plutôt que Giovanni Bosco, bien qu'il soit italien, il est né dans la région de Turin. C'est qu'il écrivait très très bien français, on a des lettres de lui, il parlait admirablement bien français. D'ailleurs, dans le nord de l'Italie, à Turin, moi-même, quand j'y suis allé, la dernière fois que je suis allé à Turin, c'était en 78, je crois. Puis, je rencontrais encore des gens qui parlaient très, très bien français, comme des Français. On aurait pensé que c'était des Français. Les gens âgés, quoi. Les jeunes, c'est l'anglais. Comme partout, comme dans les pays nordiques, hein. Même en Suède, les gens âgés parlent encore. Les gens très âgés parlent français. Et les jeunes, c'est l'anglais. Et alors donc, il a fait ce rêve. Voici le rêve. À 9 ans, j'ai fait un rêve qui m'a profondément marqué pour toute la vie. Dans ce rêve, j'avais l'impression d'être près d'une maison, dans une cour très vaste, où jouait un grand nombre d'enfants. Vous savez qu'il s'est occupé, je viens de vous le dire, de milliers d'enfants. Certains riaient, beaucoup disaient de gros mots. En entendant ces derniers, je me suis aussitôt jeté au milieu d'eux en poussant des cris, en donnant des coups de poing pour les faire taire. À ce moment même, c'est un rêve, hein, à ce moment même m'apparut un personnage majestueux richement habillé, son visage était si lumineux que je pouvais difficilement le fixer. Il m'appela par mon nom. Il me dit, ce n'est pas à coup de poing, mais c'est par la douceur et la charité que tu devras conquérir ces enfants qui sont tes amis. Montre-leur la laideur du péché, la beauté de la vertu. Et tout confus et effrayé, je lui répondis que je n'étais qu'un enfant pauvre et sans instruction. Et à ce moment, les enfants, arrêtant leur bagarre et leur tapage, se rassemblèrent tout autour de celui qui parlait. Sans trop savoir que dire, je l'interrogeai. « Qui êtes-vous? Vous qui me demandez de faire des choses impossibles? Je suis le fils de celle que ta mère t'a appris à prier 3 fois par jour. Mon nom, demande-le à ma mère, à Marie, quoi. » À ce moment, je vis auprès de lui une dame majestueuse, vêtue d'un manteau qui resplendissait comme le soleil. Devinant ma confusion, elle me fit signe de m'approcher et me prit par la main avec bonté. C'est sans doute la Sainte Vierge, hein? C'est un rêve. « Regarde, me dit-elle. Je m'aperçus que les enfants s'étaient tous enfuis. À leur place, il y avait un grand nombre de chevreaux, de chiens, de chats, d'ours, ou d'ours, si vous voulez, mais il paraît qu'au pluriel, il faut dire ours, d'ours et d'autres animaux semblables. Elle lui dit, « Voici ton champ. Voici où tu devrais travailler. Sois humble, courageux et fort. Et ce que tu vois se passer en ce moment chez ces animaux, tu le feras pour mes enfants. » Et je tournai alors la tête et voici ce que je vis. À la place des animaux féroces apparurent autant d'agneaux qui sautaient et couraient en bêlant autour de cet homme et de cette dame comme pour leur faire fête. C'est Jésus et Marie. À ce point du songe, je me mis à pleurer. Je demandai à cette dame de bien vouloir s'exprimer clairement. Parce que je ne savais pas ce qu'elle voulait dire, alors elle me posa la main sur la tête et me dit, « Tu comprendras quand il faudra. » Et à ces mots, un bruit me réveilla et tout disparut. Je restais abasourdi. J'avais l'impression que les mains me faisaient mal à cause des coups de poing que j'avais donnés et que j'avais le visage encore brûlant des gifles que j'avais reçues de ces gamins. Alors les premiers rayons du soleil frappaient, la fenêtre et du rez-de-chaussée arrivaient les premiers bruits de la maisonnée et Jean saute du lit et dit une rapide prière, une jeune, et court à la cuisine où se trouvent sa mère, sa grand-mère et ses deux frères, Joseph et Antoine, qui sont pas très gentils pour lui, surtout Antoine. Jean ne résiste pas longtemps, Jean Bosco, ne résiste pas longtemps et finit par raconter son rêve, en long et en large, et ses frères répondent par de gros rires. « Oh, tu deviendras berger ou bien chef de brigand. » Et alors, sa mère, Marguerite, elle est devenue pensive et elle regarde son fils intelligent et généreux et elle lui dit peut-être qu'il deviendra prêtre. Mais la grand-mère frappe la terre de sa canne et grommelle, « Les rêves sont des rêves. On n'est pas obligé d'y croire. » Et maintenant, à table. Une grand-mère n'est pas bête du tout. Grand-mère italienne du Nord. Je ne veux pas dire que celles du Sud sont pas intelligentes, mais elles sont peut-être plus superstitieuses. Je les ai connues, je les ai vues dans le sud de l'Italie, c'est pas toujours facile. Et alors, même que j'ai vu le père Pio lui-même stigmatiser, se mettre en colère devant ces bonnes femmes qui manquaient de sens commun, quoi, et de respect parce qu'elles l'admiraient trop. Et alors, malgré le sentiment de sa grand-mère, bien, Jean Bosco pense de temps en temps aux songes, aux enfants qui juraient, aux ours, changés en agneaux, et aux paroles de sa mère, peut-être prêtre, et puis, il en connaît déjà plusieurs des garçons, ils vivent dans les maisons voisines, dans les fermettes répandues par la campagne, mais beaucoup d'entre eux sont de braves enfants, mais il y en a aussi qui sont des garnements, quoi. Des petits voyous, des rustres. Alors, pourquoi pas commencer à s'en faire des amis dès maintenant? Alors, un jour, il revient à la maison, le visage en sang, et il jouait à la lipa, c'est-à-dire c'est une forme rudimentaire de baseball. Oui, oui, de baseball. Et le projectile de bois, oui, de bois, l'a violemment frappé à la figure. Alors sa mère s'inquiète, et tout en le soignant, elle lui dit, « Un jour ou l'autre, tu vas me revenir avec un œil abîmé. Pourquoi fréquentes-tu ces enfants? Tu sais bien que certains d'entre eux ne sont pas très raisonnables. Alors, toute sa vie, il y aura de l'opposition à ce qu'il veut faire. Même de sa mère, qui va se convertir, qui va changer, qui va aller vivre avec lui parmi les jeunes. Hein. » Alors il lui répond, « Si cela te fait plaisir, au moment, je n'irai plus. Mais, vois-tu, quand je suis avec eux, ils se tiennent beaucoup mieux. » Alors sa mère soupire un peu, puis elle le laisse aller. Elle commence à comprendre. Alors là, les trompettes des saltimbanques, car ce sont, il en fait des saltimbanques, résonnent sur la colline voisine, c'est la fête patronale. Jean, voilà pour les rejoindre. Il décide d'apprendre toutes sortes de tours. Il devient une espèce d'acrobate. Hein? Revenu à la maison, il s'entraîne à son tour. Il marche sur une corde. C'est un futur saint. Il est très amusant. Il fait sortir un poulet vivant de la casserole qui bout sur le feu. Il a appris toutes sortes de trucs auprès d'un magicien. Ça rappelle notre saint tibétain de lundi, hein, qui avait appris la magie noire, lui, avec une espèce de lama ou un magicien, quoi. Cette fois-ci, c'est de la magie blanche, là. Il lui faut des mois et des mois d'exercice patient. Il culbute. Un soir d'été, Jean Bosco annonce à ses amis son premier spectacle. Alors, sur un tapis de sac étendu sur l'herbe, il fait des prodiges d'équilibre avec des pots et des casseroles posées sur le bout de son nez. Il fait ouvrir toute grande la bouche à un petit spectateur et en tire des dizaines de balles de toutes les couleurs. Eh oui. Il se met à la baguette magique. Or, son demi-frère, Antoine, qui est vraiment désagréable, arrive des champs en plein milieu du spectacle, il jette à terre la bêche qu'il portait sur l'épaule, il entre dans une terrible colère, il le lâche, il dit « Voici le clown, le fainéant. Moi, je me casse le dos au champ. » Puis lui, il joue au saltimbanque. Alors, Jean arrête le spectacle, mais pour le reprendre 200 mètres plus loin sous les arbres. Et son demi-frère Antoine le laisse tranquille. Alors là, c'est un saltimbanque vraiment spécial, le petit Jean Bosco. Avant le numéro final, imaginez, il tire de sa poche un chapelet. Il se met à genoux. Il invite tout le monde à prier. Ou bien encore, il répète le sermon entendu à la paroisse le dimanche précédent. Et savez-vous qu'il avait une telle mémoire? C'était génial. On voit ça parfois, hein, des gens qui ont des mémoires extraordinaires. Bien, il pouvait réciter le sermon. Oui. C'était phénoménal pour un tout jeune enfant. Alors, l'offrande qu'il demande à son public, le billet qu'il fait payer, là, aux petits puis aux grands, c'est d'écouter son sermon. Il y a déjà une arme de prêtre. Puis là, il attache une corde à deux armes. Il monte, marche sur le carme, les bras étendus, entre les moments de silence, puis les ovations frénétiques de ses amis. Alors, il entreprend des classes. Il étudie. Pendant 9 ans. Durant l'hiver 1824-1825, il a pour maître Don Lacroix. L'école commençait alors le 3 novembre, finissait le 25 mars. C'est pas tellement long, hein, à cause des récoltes, des ensemencements, puis tout ça, hein, c'était des enfants des fermes. Alors, la deuxième classe élémentaire, il la fréquente durant l'hiver 1825-1826, puis sa mère cherche à lui faire suivre la troisième, mais là, son frère, son demi-frère, qui est vraiment stupide, s'oppose violemment. Et à quoi sert de perdre du temps? Quand on peut lire et signer un papier, ça suffit. Qu'il prenne la bêche, qu'il travaille, comme je l'ai fait. Alors un jour, Jean posait un livre sur la table à côté de son assiette. S'ensuit une violente querelle. Jean, qui a 11 ans, reçoit une de ses volées de la part d'Antoine, qui a 6 ans de plus. Alors ça peut plus continuer comme ça. Alors un matin de février, sa mère, Marguerite, dit à Jean Bosco les mots les plus tristes de sa vie. Il vaut mieux que tu quittes la maison un jour ou l'autre. Antoine pourrait te faire du mal. Elle a même peur, au fond, que son demi-frère l'achève. C'est, vous savez, c'est dur, la vie sur les fermes, parfois. Hein? Jean s'en va chercher du travail. Il a 11 ans. 11 ans et demi seulement. Hein? Il emporte un petit paquet avec 2 chemises, 2 livres et 1 miche de pain. Sa mère reste à le regarder sur le seuil, puis elle agite la main. Jusqu'à ce que son petit Jean Bosco disparaisse dans le brouillard. Et là, arrivé à la maison des Molia. Ou Moglia, ça c'est comme notre journaliste préféré pour certaines personnes, notre Foglia, mais ça s'appelle comme ça, Moglia, mais ça se prononce Molia. Il reste un instant en silence devant la porte, il rassemble son courage, il entre, et là la famille est réunie. Puis, on lui dit, que cherches-tu mon garçon? C'est un homme encore jeune, qui a l'air d'être le patron, il dit, je cherche Louis Molia. Alors il lui dit, c'est moi. Ma mère m'envoie. Pour que vous me preniez comme vaché, monsieur. Alors Jean fait de son mieux. Pour qu'on le garde, alors il travaille, de l'aube à la nuit. Puis, tandis que les autres vont se reposer, il allume un bout de chandelle, il continue à lire des livres que lui a prêté son maître, Don Lacroix, le prêtre, là. Quand on dit Don, ça veut dire monsieur l'abbé. Et alors, même tout en piquant les bœufs de l'aiguillon, là, qu'il garde, les bœufs, les vaches, il est capable de tenir un livre à la main. Le patron ne protestait pas, mais il secoue la tête. Il dit, pourquoi lis-tu tant que ça? On lui dit, parce que je veux devenir prêtre. Et alors, Pourtant, les études devenaient chaque jour plus difficiles au milieu des mottes de terre, là. Et 3 ans sont passés ainsi. Au mois de novembre 1829, son oncle Michel, un frère de sa mère, s'en vient le trouver, puis lui dit, « Alors, Jean, tu es content? » « Non, je suis bien traité, mais je vais étudier, j'ai déjà 14 ans. » Alors l'oncle Michel le reconduit à la maison. Antoine, son demi-frère, s'enrage de cette décision, mais après une discussion épouvantable, il accepte les études de Jean, à condition que sa part d'héritage lui revienne. Alors là, en 1835, lui qui était né en 1815, notre Bosco, il y a 20 ans, un jeune homme, il a étudié, travaillé dur, il s'est fait des centaines d'amis, et maintenant, donc, il prend la résolution la plus importante de sa vie, c'est d'entrer au séminaire. 6 années d'études intensives. Et le 5 juin 1841, bien, l'archevêque de Turin impose les mains à Jean Bosco et prie l'Esprit Saint de le consacrer prêtre pour l'éternité. Et Jean célèbre sa première messe. Il est devenu Don Bosco. Dans la ville où est ce merveilleux Saint-Suaire de Turin. Ce soir-là, sa mère lui dit, « Maintenant, tu es prêtre. » Écoutez bien, ça, c'est très beau. Toutes les mères de prêtres devraient dire ça à leur fils. « Maintenant, tu es prêtre. Tu es prêtre de Jésus. » Moi, je n'ai pas lu tes livres. Mais rappelle-toi que commencer à dire la messe, c'est commencer à souffrir. Et désormais, pense seulement au salut des hommes et ne te préoccupe plus de moi. C'est une sainte qui parle, hein? Alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant, Don Bosco? On lui offre des places sûres d'aumônier, mais il y a un autre projet. Il veut s'occuper des enfants, alors il reste à Turin. Pour compléter ses études de théologie, pour étudier la situation, alors son professeur, c'est un prêtre discret, qui restera son ami, son conseiller pour toute sa vie, c'est Don Cafas. C'est un saint. C'est un vieux prêtre. On l'appelle le prêtre de la canaille. Il s'occupe des canailles. Il consacre son temps libre à visiter les prisons. Et à cette époque, on a un grand mépris pour les prisons. Aujourd'hui, vous savez, on visite beaucoup plus facilement peut-être les prisons que dans ce temps-là. Là, on dit les choses vont mal. Mais peut-être que les choses vont mieux sous certains rapports. Ce prêtre consacre son temps libre à visiter donc les prisons. Et si quelqu'un est condamné à mort, il monte sur la charrette. Puis devant tout le monde, là, il se promène dans la charrette. Il console le condamné à mort jusqu'au moment de l'exécution. Don Bosco entreprend donc d'accompagner son maître Don Cafas dans les prisons. Mais c'est pas des prisons comme celles d'aujourd'hui. C'est pas la télévision, etc. Hein? Non, non, non. Je me souviens d'être allé voir un prisonnier. Il portait des pantalons pattes d'éléphant. Dans le temps, c'était la mode. Il était tellement bien bronzé que j'étais jaloux. Il avait la piscine, etc. Mais j'aurais pas voulu être à sa place. Et alors, dans ces souterrains, dans la prison, entre les murs noirs et humides, il rencontre des visages tristes et menaçants. Il éprouve du dégoût. Il manque parfois de s'évanouir. Mais ce qui lui fera le plus mal, c'est la vue de jeunes détenus qui ont le regard blessé. Et surtout, cette espèce de sourire railleur. Hein? Ça, c'est blessant, c'est terriblement blessant. Et un jour, il a aperçu derrière les barreaux un groupe de très jeunes garçons, on aurait dit des enfants. La peine de Don Bosco est telle qu'il éclate en sanglots, et je le comprends, comme je le comprends. Je me souviens de mon fils un jour, après la messe de minuit, j'étais allé réveillonner chez lui et sa femme. Son fils venait de naître, il avait fait l'enfant Jésus à la crèche. Mon fils avait fait Saint-Joseph, sa femme avait fait la Sainte Vierge. C'était des beaux moments, et alors il m'a reconduit à l'autobus, dans la nuit. Je cherchais un taxi, en fait. C'était difficile à trouver, il y avait de la neige. Il m'a serré le bras et m'a dit, « Tu sais, papa, si tu m'as pas adopté, je serai en prison. » Ou bien je serais mort. C'est ça, ces enfants-là. Alors ce jour-là, en sortant de la prison, Don Bosco a pris une décision inébranlable. Il écrit, beaucoup de jeunes sont là parce que personne ne prend soin d'eux. Il faut les aider, les instruire. Il faut empêcher à tout prix que des enfants aussi jeunes finissent en prison. Je veux sauver ces malheureux. Et le 8 décembre 1841, Don Bosco se prépare à célébrer la messe dans une église. Saint-François d'Assise, qu'elle s'appelait. Et un adolescent se présente dans la sacristie. Alors là, le sacristain, qui croit avoir un espèce de petit voleur, un petit voyou, le chasse à coups de balai, mais Don Bosco intervient et il lui dit, qu'il c'est un ami. Alors le garçon revient, humilié, il a la tête rasée, comme les jeunes ouvriers de l'époque. La veste est maculée de chaux, parce qu'ils sont des petits maçons. Il y a beaucoup de construction à Turin dans ce temps-là. Et c'est un jeune migrant, quoi. Ses parents lui avaient dit, à Turin, tu iras à la messe. Alors, il était donc allé à la messe. Mais ces petits-enfants-là, vous savez, qui ont l'air des petits voyous, surtout à cette époque, sont parfois des enfants qui ont une formation chrétienne beaucoup plus forte qu'on pense. Moi, quand j'ai adopté mon fils, j'avais laissé un paquet de cigarettes près de sa table. Il dormait, je m'en allais au bureau parce qu'il ne travaillait pas ce jour-là, lui. Et puis, j'ai oublié de lui dire que c'était pour lui. Et quand je suis rentré le soir, il ne l'avait pas ouvert. Tellement il était honnête, hein, il avait dit, « Mais papa, tu m'as pas dit que c'était pour moi. » C'est curieux, hein? On pense adopter des petits voleurs. On adopte des gens qui nous font des leçons de morale. Alors, finalement, il entraîne cet enfant à prier avec lui. Aristin, je vous saluerai. Et c'est à ce moment même que naît, si on peut dire, l'oratoire, c'est-à-dire la congrégation des Salésiens. Ça s'appelait l'oratoire au début. Ensuite, ça s'est appelé les Salésiens en l'honneur de Saint-François de Sales. Ah oui, ça commence, là, le grand apostolat de Don Bosco au milieu des jeunes. Et 4 jours plus tard, c'est dimanche. Ce petit garçon revient accompagné de 8 autres. Ils viennent chercher Don Bosco. Et le dimanche suivant, Don Bosco voit 4 jeunes maçons dormir l'un auprès de l'autre pendant le mili. C'est trop difficile pour eux. Ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas écouter ces choses. Ça les ennuie, alors ils les réveillent, puis ils disent « Venez avec moi ». Alors, sur la pointe des pieds, il les conduit à la sacristie, et ce petit garçon qui était venu le trouver, là, Barthélemy, arrive aussi avec d'autres amis. Le nombre grossit, et Don Bosco les aide à prier, dit la messe, et leur fait une petite homilie adaptée, vivante, sous forme de dialogue. Ben oui, c'est pas nouveau, hein, sous forme de dialogue. Pleine de faits, de détails captivants pour ses enfants. Alors, le dimanche suivant, en arrive encore d'autres. Une marée de jeunes, aux vêtements négligés, mais au regard si vivant. Ils recherchent Don Bosco, sa parole, son affection. Alors, l'armée des jeunes grossit. Mais l'hiver avance, lui aussi. Il faut les mettre à l'abri de la violence, de la neige, du froid, alors. Le premier lieu, ça va être le collège ecclésiastique où étudie Don Bosco. Et dans la petite cour, il y a les jeux, la récréation. Dans l'église voisine, ben, on fait les célébrations, les chants, le catéchisme. Don Cafas, ou ce vieux prêtre, acquiesce. Il n'a pas son aide. Mais il y en a toujours, hein, qui proteste. Oh, ça fait trop de bruit. C'est insupportable. Mon Dieu, qu'est-ce que ça peut faire? Je me souviens quand mon fils venait avec ses 2 enfants. Ça courait dans la maison pendant des fois 2 semaines, pendant les vacances. On s'habitue, on trouve ça sympathique. Durant l'été 1844, Don Bosco termine ses études au collège ecclésiastique. Il est nommé directeur spirituel de l'hôpital, un institut pour fillettes malades, ouvert par la marquise de Barolo, à la périphérie de Turin. Et beaucoup de marquises, de comtesses et de choses comme ça vont l'aider, c'est assez étonnant. La foule des enfants suit Don Bosco. Hein. 200, 300 gamins envahissent les prés environnants. Il cherche à s'amasser sur les escaliers et la petite chambre de Don Bosco pour écouter sa parole. Ils aiment l'entendre. Quand un prêtre parle à des enfants, puis il parle avec son cœur, puis qu'il est un saint, les enfants sont fous de ça. Je crois qu'il serait fou de ça aujourd'hui. J'en suis sûr. Maintenant qu'il a un peu plus de place, Don Bosco envisage de donner des rudiments d'instruction aux plus intelligents de ses jeunes. Et un soir, ils viennent à lui par petits groupes, le visage noir de suie ou blanc de chaud, la veste sur l'épaule, heureux d'avoir un peu d'école. Ils ont beaucoup de difficultés à compter, alors Don Bosco leur écrit le système métrique décimal pour les aider. La marquise, elle, ne supporte pas longtemps ce vacarme. Comme elle ne réussit pas à persuader Don Bosco d'abandonner ses enfants pour se consacrer entièrement à son institut, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le prie de les conduire ailleurs. Et ça, c'est les déménagements perpétuels de ce pauvre Bosco. Pauvre Jean Bosco, qui cherche à émigrer finalement, ici et là, dans la chapelle d'un cimetière désaffecté, puis il y a là des arcades et une cour. Le chapelain donne Thésio, un bon prêtre. C'est un de ses amis. Alors la gouvernante voit arriver la troupe d'enfants qui se déchaînent, font du bruit dans la cour. Alors elle reste interdite, elle monte sur ses grands chevaux, elle crie, elle donne des coups de balai à certains jeunes, elle va jusqu'à insulter Don Bosco, qui croit bon de rappeler ses jeunes et de s'en aller. À croire que les femmes sont pas très gentilles. On va continuer pour voir s'il y en a qui sont meilleures. Hein? Alors, Encore cette femme qui crie en direction des gamins. Enfin, je ne vous verrai plus, espèce de va-nu-pied. Alors, elle ne mentait pas parce que dans quelques jours plus tard, elle est morte, dans la même semaine. Pauvre. Le 12 juillet 1845, avec l'autorisation de la mairie, Don Bosco installe son campement près des moulins de la ville, sur les bords là, de la Dora, la rivière. Et peu après, là encore, les voisins cherchent querelle. À cause du vacarme, des cris, Don Bosco, une nouvelle fois, doit annoncer une triste nouvelle à ses jeunes. Mes amis, il nous faut déménager. Mais durant ce séjour au moulin, Don Bosco rencontre un garçonnet pâle. Quelle belle rencontre! Le jeune le regarde en silence. Il a 8 ans. Il s'appelle Michel Rua. Il est béatifié, d'ailleurs, aujourd'hui. Ça a été son successeur, ce petit garçon. Et Don Bosco a distribué des médailles à des gamins. Puis là, il approche de ce petit Michel Rua. Et avec ce garçonnet, il scelle qu'ils vont faire tout moitié-moitié. Il en fait son meilleur petit ami. Alors donc, notre pauvre Don Bosco, puisqu'il s'agit de lui, Saint-Jean Bosco, est obligé encore de déménager avec ses enfants. Il en a 300 maintenant, c'est pas possible. Il finit par trouver un endroit. C'est un hangar qu'il a loué à François Pinardy, une sorte de baraquement de 15 mètres sur 6. Et là, il s'installe petit à petit. Il remet tout ça à neuf avec l'aide de gens généreux et même des petits-enfants, des garnements là, qui sont des maçons, etc., qui peuvent l'aider. Et il a acheté pour la nouvelle chapelle des ornements sacrés, des lampes, des chandeliers. Il a commencé à ressentir le poids des dettes, un poids dont il ne sera jamais plus délivré jusqu'à la fin de sa vie. Il sera toujours endetté, malgré les dons merveilleux qu'il a reçus de laïcs absolument fantastiques, y compris des Françaises, dont la femme la plus généreuse a été une Française, d'ailleurs, qui l'entraînait à la sainteté. Alors la Providence, pourtant, était toujours là pour l'aider. Le 12 avril, c'est un très très grand jour en 1846. Ce matin de Pâques, toutes les cloches de la ville ont carillonné joyeusement et près du hangar Pinardy, il n'y avait pas de cloche, alors Don Bosco attendait ses gamins. Et maintenant que Marie lui avait ouvert le chemin, Don Bosco était certain d'aller très loin. Alors avec ses amis prêtres, il parlait des projets qu'il faisait, comme s'ils étaient déjà réalisés. Et écoutez bien ça, c'est une histoire des plus drôles qui soit dans une vie de saint. Il dit, nous bâtirons des ateliers, des salles de classe. Je vois tout comme si cela existait déjà. Alors ils l'ont écouté d'abord avec curiosité, puis quelqu'un s'est mis à secouer la tête, puis il murmurait à quelqu'un d'autre, il dit, Don Bosco n'est pas bien, il va devenir fou. Alors même son ami le plus cher, son bras droit à l'oratoire, là, la congrégation des Salésiens qui se fondait, l'abbé Borel, a commencé à douter de lui. Et un jour que Don Bosco lui avait parlé avec chaleur de tous ses projets, il lui a jeté les bras au cou, il a éclaté en larmes, il dit, pauvre Don Bosco, tu as vraiment perdu la tête. C'est alors que deux amis de Don Bosco, les abbés Pontasi et Nasi, ont demandé une place pour lui à l'asile. Et un soir, comme Don Bosco faisait le catéchisme à quelques enfants, est arrivé une calèche fermée, les deux prêtres en descendirent, puis ils ont invité Don Bosco à faire, en leur compagnie, une petite promenade. Il l'amenait à l'asile, imagine. « Tu es fatigué, cher Jean. Un peu d'air frais te fera du bien. » Alors, il dit, volontiers, je prends mon chapeau, j'arrive. Écoutez bien ça, l'un des deux amis a ouvert la portière. Il dit, monte. Alors, il dit, non, il dit, après vous, je vous en prie. Et après quelques instances, là, ils se faisaient des politesses, les deux amis sont fait un clin d'œil complice. Et pour pas gâcher l'entreprise, ils ont accepté de monter les premiers. Et à peine étaient-ils à l'intérieur de la calèche que Don Bosco a fait claquer la porte et a crié au cocher, vite, vite, à l'asile, on y attend ces deux clients. Alors la calèche est partie comme une flèche vers l'asile situé à peu de distance, et quelques infirmiers qui étaient alertés attendaient un prêtre. Ils en ont vu arriver deux. Alors il a fallu l'intervention de l'aumônier de l'asile pour libérer les deux malheureux prêtres. À partir de ce jour-là, on a laissé Don Bosco tranquille. Mais pendant la semaine, les maçons de Turin ont commencé à voir un spectacle insolite. Un prêtre qui retroussait sa soutane, qui montait sur des échafaudages. Parmi les seaux de chaux et les tas de briques, c'était Don Bosco, qui, après avoir rempli ses obligations, montait là-haut pour rencontrer ses jeunes. Hein. Adopter un itinérant, comme j'ai fait, qui a une deuxième année scolaire, envoyez-le travailler quand il a 18-20 ans, Et vous verrez qu'il va travailler dans des usines abominables, il se brûlera les mains dans de l'acide et il reviendra avec des salaires de famine. Et au bout de 3 mois, pour ne pas lui donner une augmentation de salaire, on le fichera dehors pour en prendre un autre au plus bas salaire. Et aussi afin qu'il ne soit pas enrégimenté dans les syndicats. Don Bosco était souvent le seul à vouloir du bien, à les aider, ces pauvres jeunes. Mais ils ne se contentaient pas de monter les trouver sur leur lieu de travail, ils s'arrêtaient pour échanger quelques mots avec le patron. Ils voulaient convertir les patrons. Ils voulaient connaître les salaires aussi, leur temps de repos, savoir s'ils avaient la possibilité d'être libéré le dimanche pour la messe, etc. Alors, il était un des premiers en Italie à exiger des contrats de travail réguliers pour ces jeunes apprentis. Il a veillé à ce que les patrons les respectent. C'était du syndicalisme, quoi. Un bon syndicalisme, s'entend. Don Bosco, pourtant, n'était qu'un homme. Les forces d'un homme ont des limites, et un dimanche de juillet 1846... Après une journée épuisante, passé à confesser, à prêcher, à faire s'amuser les 500 gamins qu'il avait maintenant, eh bien, Don Bosco s'évanouit. Pendant qu'il rentrait à sa chambre, près du petit hôpital, alors on l'a porté inerte sur son lit. Il avait été frappé par une pleurésie grave, accompagnée de crachements de sang, et durant la nuit, la fièvre montait dangereusement. Alors là, sur les échafaudages, les petits maçons, et dans les ateliers, ben, les apprentis mécaniciens, on m'a entendu parler de ça. Don Bosco est en train de mourir. Alors ce soir-là, sont arrivés à la chambre où agonisait Don Bosco des groupes de pauvres petits gamins effrayés. Ils avaient encore leur tenue de travail, toute tachée, le visage blanchi par la chaux. Ils n'avaient pas soupé pour venir plus vite, ils pleuraient. Ils priaient, « Seigneur, ne le laissez pas mourir. » Et 8 jours durant, Don Bosco est resté entre la vie et la mort. Il y a eu même des garçons qui, pendant ces 8 jours, qui travaillaient sous un soleil brûlant, ne burent pas une gorgée d'eau pour arracher au Seigneur la guérison de leur ami. Un peu comme les musulmans qui, pendant le ramadan actuellement, là, ne boivent pas du lever du soleil ou coucher du soleil. Et alors, au sanctuaire de la Consolata, les petits maçons ont organisé des tours de prière jour et nuit. Il y avait toujours quelqu'un à genoux devant la Madone. Et parfois, leurs yeux se fermaient de sommeil. Ils venaient de faire 12 heures de travail, mais ils résistaient. Il fallait pas que meure Don Bosco. Et un dimanche après-midi, vers la mi-juillet, ou plutôt la fin de juillet, Don Bosco, s'appuyant sur une canne, a pris la direction de l'oratoire. Il était comme guéri. Les jeunes ont volé à sa rencontre. Ah, les plus grands l'obligèrent à prendre place sur une chaise. Ils l'ont élevé sur leurs épaules. Ils l'ont porté en triomphe jusqu'à la cour. Et là, les jeunes amis de Don Bosco chantaient, pleuraient tout à la fois, comme Don Bosco lui-même. Ils sont entrés dans la chapelle. Ils ont remercié le Seigneur. Et dans le silence, Don Bosco a réussi à dire quelques mots. Il dit, « Ma vie, c'est à vous que je la dois. » Écoutez bien ça, il a dit, mais soyez-en sûrs, désormais, c'est à vous que je la consacrerai tout entière. Alors, c'est ça, quand on prend en charge ces êtres-là, on voudrait leur consacrer toute notre vie, toute notre vie. En ces jours de chaleur asphyxiante, Don Bosco est monté pour voir sa mère au Becchi, pour se reposer aussi. Il a promis à ses petits gamins, à la chute des feuilles, à l'automne, je serai de retour parmi vous. Et c'était le 3 novembre 1846, là, les feuilles tombaient au vent d'automne, quand Don Bosco a repris la route de Turin. Il n'était pas seul, il était accompagné cette fois-ci de sa mère. Je vous l'avais annoncé au début, sa mère va comprendre. Et sa mère comprend. C'est une sainte, elle aussi. Elle avait accepté de le suivre. Elle voulait devenir la mère de tous ses jeunes enfants. Et là, comme deux pèlerins, ils ont fait la longue route à pied. Sa mère portait au bras, dans un panier, toute leur richesse. C'était des pauvres. Un petit peu de linge. Et un petit peu de nourriture. Ils sont mis au travail. Avec le sourire, Don Bosco a fixé au mur un crucifix. Et un petit cadre de la Sainte Vierge. Sa mère, qu'on appelait Maman Marguerite, a préparé les lits pour la nuit. Puis ensemble, ils se sont mis à fredonner une chanson qui disait « Gare au monde, si on se sent des étrangers, des pauvres gens. » Un garçon, Étienne Castagno, les a entendus. La nouvelle a couru parmi les jeunes de Valdocco. Don Bosco est de retour. Alors maintenant qu'il avait sa mère avec lui, Don Bosco pensa faire quelque chose de plus pour les jeunes. Certains, le soir, ne savaient pas où aller dormir. Ils finissaient sous les porches ou dans les misérables dortoirs publics. C'est ce qu'on a fait à Montréal, et on leur permet de coucher dans le sous-sol d'une église de Montréal, l'église Saint-Louis de France. Alors, il a décidé de prendre chez lui les plus démunis. Le premier essai s'est passé très mal. Des petits voleurs parmi eux. Il en avait rassemblé quelques-uns. Ils avaient mis à dormir dans la grange. Le matin, il n'y avait plus personne. Ils s'étaient envolés. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient apporté avec eux les couvertures pour aller coucher ailleurs. Couvertures qui leur avaient été prêtées par Maman Marguerite. Mais ça, ils n'ont pas découragé. Un soir de mai, il pleuvait à boire debout. Alors, Don Bosco et sa mère avaient à peine fini de dîner lorsque quelqu'un frappait à la porte. C'était un jeune d'une quinzaine d'années, tout trempé et engourdi. Il dit, « Je suis orphelin. Je viens de la Valaisia. Je suis maçon, mais je n'ai pas encore trouvé de travail. J'ai froid et je ne sais pas où aller. » Alors, Don Bosco est déjà sorti sur l'appui. Il ramène quelques briques, les empile, pose quelques planches, puis il prend son propre matelas, le matelas de son lit. Il le place dessus, puis lui dit, « Tu vas dormir ici, mon ami. Et tu y resteras tant que tu en auras besoin. » Or, Don Bosco ne le chassera jamais. Et c'est le premier orphelin qui entre vraiment chez Don Bosco. Et à la fin de l'année, ils seront 7. Et, plus tard, ils seront des milliers. Oui, des milliers. Que c'est fantastique. Il y avait un prêtre ici, l'abbé Gagnon, qui s'occupait des marronniers dans l'est de Montréal. On dit qu'il en a adopté plus de 1000. L'abbé Gagnon, ici à Montréal, qui parle de lui? Qui sait? Moi, je le sais. J'avais essayé de lui confier mon fils adoptif parce que je pensais ne pas pouvoir passer au travers. Et mon fils préférait rester avec moi. Il était plus gâté chez moi. En 1848 a éclaté cette première guerre d'indépendance en Italie. Des champs de bataille, des milliers d'hommes dans les rues de Turin. Il y avait des bandes d'orphelins sans toit, sans avenir. Alors, Don Bosco a grandi sa maison. Il a frappé à la porte des riches, a dérangé les nobles, les dames de l'aristocratie. Puis il a trouvé les sous pour construire une maison toujours plus grande pour ses enfants abandonnés qui ne savaient où aller. Plusieurs parmi ses petits pensionnaires étaient éveillés et intelligents. Vous verrez tout à l'heure. Pourtant, ils étaient condamnés à travailler comme ouvriers pour vivre. Peut-être le serait-il toujours. Ça, c'est une des choses qui est les plus angoissantes, de penser qu'ils vont rester toujours en bas de l'échelle. Et Don Bosco refuse cette perspective. Non, non, non. Il ouvre un cours du soir. Il invite des amis prêtres, des bénévoles à donner des cours. On fait la classe dans la cuisine, dans la sacristie, dans le cœur de la chapelle, partout où il y a un coin de libre. Durant la nuit, pendant que tout le monde se repose, Don Bosco rédige des livres pour ses jeunes. Il en écrit tant et tant, simples et économiques, qui sont d'ailleurs adoptés dans de nombreuses écoles de Turin, dans le nord de l'Italie, Turin. Mais les jeunes qui s'entassent dans la cour de l'oratoire, ou chez les Salésiens, si vous voulez, sont devenus vraiment trop nombreux. Et Don Bosco songe à en fonder un second, puis un troisième. Alors, le 2 février 1851, c'était un jour merveilleux pour Don Bosco. 4 des enfants qu'il avait amassés dans la rue et qu'il avait instruits, écoutez bien ça, avec tant d'amour, il y avait de demander quoi? C'est si beau, hein, de devenir comme lui. Et de se préparer à être prêtre. C'était Joseph Buzzetti, un petit garçon venu de Lombardie. Charles Gastini, un petit coiffeur de 11 ans. Et Don Bosco lui avait dit de lui coiffer les cheveux à 11 ans. Et le patron avait dit, mais non, il n'y a rien qu'à 11 ans, il ne peut pas faire ça. Et il avait entraîné le petit Gastini à devenir un petit coiffeur. Mais là, il voulait devenir prêtre. Puis il y en avait deux autres, Jacques Bellia et Félix Reviglio. Alors, ce jour-là, ils ont pris la soutane, puis ils ont commencé à l'aider auprès de leurs compagnons plus jeunes. Et là, à l'aide de ces premiers séminaristes, pourtant très jeunes, Don Bosco s'est lancé dans une entreprise téméraire imposante en 3 ans, de 1853-56. Il a ouvert des ateliers de cordonnerie, des ateliers d'habillement, des ateliers de reliure, des ateliers de menuiserie. On est parti de rien, mais quelques établis dans un petit couloir pour les cordonniers, deux petites tables pour les tailleurs dans la cuisine. Ce fut Don Bosco, le premier instructeur des tailleurs, comme il fut le premier à s'asseoir à l'établi, à marteler la semelle pour les apprentis cordonniers. À partir de cette graine devait monter bientôt et germer un grand arbre. Don Bosco trouvait l'argent pour payer le pain de ces jeunes, mais faisait des miracles aussi. Oui, on en a été témoin. Les gens diront que je suis crédule. Ça ne me dérange pas du tout, pas du tout. J'y crois, ce miracle. À cette question, il répondait par un seul mot, c'est la providence. Le Seigneur envoyait des bienfaiteurs, il inspirait des chrétiens. Il inspirait les chrétiens. Il faisait arriver des lettres avec des offrandes. Et parfois, il intervenait lui-même. Je vous l'ai dit par des miracles. Écoutez bien ça. Le premier dont je vous ai parlé, le petit séminariste Joseph Boudiette, y en a été témoin en 1849. C'est pas une histoire, c'est pas un rêve. Là. 150 ans, ça. Don Bosco avait promis des châtaignes grillées à ses 400 jeunes. Alors maman Marguerite, sa mère, n'avait pas bien compris. Elle n'en avait fait cuire que 6 ou 7 livres. Et le panier dans lequel Don Bosco puisait avec une grosse louche en contenait une dizaine de parts, c'est-à-dire pour 10 personnes. Pourtant, il y en a eu assez de châtaignes pour tout le monde, même pour lui. Et le petit Buzzati a reçu sa part le dernier, les yeux écarquillés devant le miracle qu'il avait vu de ses propres yeux se produire tout près de lui. Alors, il a été en difficulté avec les Vaudois aussi, qui ne l'aimaient pas. Les Vaudois, ce sont des protestants. C'est une secte qui a été fondée au 12e siècle, longtemps avant les protestants proprement dit. Et ils ont même tiré dessus, chose étrange. Mais il a été préservé. C'est une triste histoire, j'aime autant ne pas la raconter, ça me fait de la peine, moi. J'ai rencontré les Vaudois. Oh, je les ai pas eu dans mon cœur, nécessairement. J'ai eu de la misère avec eux, moi aussi, à Turin. Mais enfin, on s'entendait pas. Il a travaillé toujours, toujours, toujours. Un soir, à la nuit tombée, après une longue journée de travail, quelques hommes sont venus appeler d'urgence Don Bosco pour aller confesser une vieille, une pauvre mourante. Et Don Bosco s'y est rendu immédiatement. Mais dès qu'il est arrivé dans la chambre, il y a quelqu'un qui a éteint les lumières. Et ces individus se sont jetés sur lui armés de bâtons. Don Bosco eut à peine le temps de saisir une chaise pour s'en protéger. En reculant, sous une grêle de coups de bâton, il a réussi à trouver la porte et à se sauver. Je vous fais grâce de toutes les fois où on a essayé de le tuer et de le massacrer. Mais chose étrange... Un soir, Don Bosco devait sortir pour des affaires urgentes, mais il a trouvé cette espèce de chien qu'on appelle le gris. C'est un chien gris étrange qui était allongé sur le seuil de la porte. Alors, il a cherché à pousser le chien pour l'enjamber, pour aller aux affaires urgentes, mais à chaque fois, le chien grognait et le faisait reculer. Et sa mère, qui connaissait bien cette bête, a dit à Don Bosco, « Si tu ne veux pas m'écouter, écoute au moins le chien et ne sors pas. » Et le lendemain, Don Bosco a appris, de source sûre, qu'il y avait un tireur armé d'un pistolet qui l'attendait au coin d'une rue. En juillet 1854, une nouvelle terrifiante a couru à Turin. Le choléra a envahi la Ligurie, c'est-à-dire toute la région, et se propage rapidement dans tout le Bas-Piémont. Le roi, la reine, la cour s'enfuit. Pendant ce temps, les 30 et 31 juillet, toujours 1854, on constate dans les faubourgs les premiers cas du fléau. Et le 5 août, le quartier le plus touché de Turin, c'est celui de Dora qui avoisine le Val d'Occo, où ils sont installés eux autres. Chaque jour, ce sont plus de 100 malades qui agonisent dans les maisons et les lazarets. Alors là, le maire de la ville de Turin lance un appel dramatique aux prêtres. Aux prêtres. Aux religieux, aux religieuses. On manque de médecins et d'infirmiers dans les hôpitaux. Alors, des personnes de bonne volonté se présentent, prêtes à risquer leur vie. Ce soir-là, Don Bosco dit aux jeunes de sa congrégation, de son oratoire, le maire a lancé un appel. Et si quelqu'un parmi les plus grands désire venir avec moi dans les hôpitaux et les maisons pour soigner les malades, nous ferons ensemble une bonne œuvre. Ce sera agréable au Seigneur. Et écoutez bien ça, je vous assure. Que si vous restez tous en état de grâce, on ne parle plus de ça, l'état de grâce aujourd'hui, c'est fini, ça existe l'état de grâce, c'est cet état d'union profonde avec Dieu en nous, C'est ça, l'état de grâce. Hein? Dommage qu'on n'en parle plus. Je vous assure que si vous restez tous en état de grâce, et si vous ne commettez aucun péché mortel, c'est-à-dire aucune faute qui blesse l'amour qui existe entre Dieu et vous, et entre vous et Dieu, eh bien, personne parmi vous ne vous atteindra du choléra. Alors, le soir même, 14 parmi les plus âgés ont donné leur nom, et quelques jours plus tard, 30 autres ont réussi à arracher la permission, même s'ils étaient beaucoup plus jeunes, et ce furent des jours de travail absolument pénibles, même désagréables. Les médecins conseillaient spécialement, pour les premières heures où se manifestait le mal, des massages, des frictions aux jambes, destinées à provoquer des transpirations. C'est curieux, hein? Durant plus d'un mois, 44 jeunes gens, oui, des gens de la rue qui l'avaient ramassé, là, ont vécu sans horaire. Et Don Bosco donnait l'exemple à tous, toujours prêt à accourir, à réconforter, à administrer les derniers sacrements. On voit ça des fois dans les nouvelles. Un jeune itinérant, un jeune de rien du tout, un jeune criminel qui a fait 2 ans de prison, sauve la vie de quelqu'un, puis trouve ça tout à fait normal. La générosité au cœur de ces jeunes voyous, hein, qui finalement ne sont peut-être pas des voyous. Et après les premières pluies d'automne, ben, le nombre des malades a diminué, puis le 21 novembre, l'état d'urgence est terminé. Le petit groupe des 4 séminaristes, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, s'était maintenant multiplié. Et Don Bosco a senti qu'il était arrivé pour lui le temps des grandes réalisations. Les années suivantes seront des années de travail intense. Toujours des difficultés de plus en plus grandes. Les œuvres destinées à défier le temps. Le 18 décembre 1859, dans la petite chambre de Don Bosco, naissent les Salésiens. C'est une des plus importantes congrégations de l'Église, le saviez-vous? C'est énorme, énorme, presque aussi nombreux que les Jésuites. Les 17 premiers jeunes qui l'ont suivi acceptent de s'unir dans la congrégation salésienne pour consacrer leur vie aux enfants pauvres. Le 30 juillet 1860, donc l'année suivante, Michel Rua, dont je vous ai parlé, est monté à l'hôtel pour célébrer sa première messe. C'était ce garçonnet pâle, hein, que Don Bosco avait rencontré au bord de la rivière, et à qui il avait offert la moitié de sa main, on peut dire. Il va devenir le bras droit de Don Bosco. En 1864, on entreprend la construction du sanctuaire de Marie Auxiliatrice. En 1872, Don Bosco fonde la congrégation des filles de Marie Auxiliatrice. Il dit aux premières sœurs, « Vous êtes pauvres, peu nombreuses, mais vous aurez des élèves à ne plus savoir où les mettre. » Le 11 novembre 1875, dans le sanctuaire de Marie Auxiliatrice, où se presse une foule émue, Don Bosco remet le crucifix aux 10 premiers missionnaires salésiens qui vont partir pour l'Amérique du Sud. Je voyais tout à l'heure, dans cette immense collection des 8 saints, Histoire des saints et de la sainteté chrétienne, Histoire des saints et de la sainteté chrétienne, en, je crois, une douzaine de gros volumes, eh bien, à l'article sur Jean Bosco, il y a la photo de ces missionnaires avec leur croix. C'est assez bouleversant. Oui. Et là, le 9 mai 1876, le pape Pie IX approuve les coopérateurs salésiens. Ce sont des laïcs qui travaillent pour le salut de la jeunesse. Sans votre aide, dit Don Bosco, je n'aurais rien fait aussi peu. Et là, tout se répand. Et Don Bosco parcourt chercher de l'argent en Italie, en France, en Espagne. Alors, les mains de Don Bosco redonnaient la vue aux aveugles, oui, la santé aux malades, faisaient entendre les sourds. C'était le prêtre qui faisait des miracles. Il parcourait le monde. C'était un thaumaturge. En mai 87, Don Bosco vient d'accomplir un dernier voyage à travers l'Espagne à la recherche de dons, et il a reçu du pape la charge de construire la basilique du Sacré-Cœur à Rome. Imaginez. Et là, bien, il se sent extrêmement fatigué. À la fin d'une messe, on doit, pour ainsi dire, le porter à la sacristie. On lui demande, « Qu'avez-vous ?» Et entre les larmes, il dit, « J'avais devant les yeux, comme si j'étais, la scène de mon premier songe à 9 ans que je vous ai raconté au début de cette émission. Je voyais vraiment, et j'entendais ma mère et mes frères parler de ce que j'avais rêvé. Et dans mon songe, bien lointain, la Vierge lui avait dit, « En son temps, tu comprendras tout. » Et maintenant, regardant en arrière, il lui semblait tout comprendre. Cela valait la peine de faire tant de sacrifices. de fournir tant de travail pour sauver tant de jeunes. Saint Jean Bosco, Don Bosco, est mort à l'aube du 31 janvier 1888, il y a un peu plus de 100 ans. Et aux Salésiens, ces religieux qu'il a fondés et qui le veillaient, il a murmuré dans ses derniers instants, et c'est très beau ce qu'il dit, « Faisons du bien à tout le monde, mais ne faisons de mal à personne. Dites à tous mes jeunes que je les attends au paradis. C'est lui qui sera le formateur de bien des jeunes. » Oui, comme Dominique Savio. Il a laissé, au moment de sa mort, 774 Salésiens déjà. C'est énorme. Dans 57 centres de jeunes. Il laissait aussi 313 Salésiennes dans 50 centres. Il y a quelques années, il y avait 17 000 Salésiens. Ils doivent être aussi nombreux parce qu'ils ont beaucoup de vocations en Amérique du Sud et un peu partout. 17 000 Salésiens. Les Jésuites sont un peu plus de 20 000. Hein? Il laissait aussi, c'est-à-dire il y a aussi aujourd'hui 16 000 Salésiennes. En somme, il établissait toute son œuvre sur l'affection. Don Bosco préconisait une affection qui doit être le signe de celle de Jésus-Christ. On peut lire tellement d'ouvrages intéressants sur Jean Bosco. On a publié longtemps, Pierre Crasse a publié La fidèle histoire de Saint Jean Bosco avec une préface du père Paul Doncœur, le jésuite. C'est un ouvrage qui avait été couronné par l'Académie française. J'ai lu ça bien longtemps. Et on peut lire aussi avec beaucoup d'intérêt Don Bosco avec Dieu à l'apostolat des étudiants de Eugène Seria. C'est un livre vraiment bien fait. Et aussi Don Bosco et les Salésiens de Weird. C'est publié à Turin. Il y a la spiritualité salésienne de Saint Jean Bosco. Aux éditions Don Bosco, on peut se le procurer en téléphonant aux Salésiens. Il y en a à Montréal, des Salésiens. Ils sont surtout à Sherbrooke. On peut lire aussi Un homme et un saint, Don Bosco, toujours aux éditions Don Bosco. Il y a là des textes magnifiques comme un texte de Jean 23, superbe sur Don Bosco. Il dit « Pour le peuple, Don Bosco fut toujours le prêtre des jeunes, tout entier dévoué à leur instruction religieuse, à leur éducation morale, les formant aux vertus civiques et au travail. » Et ça résume très bien l'intention profonde de Don Bosco. Il y a aussi les Fioretti de Saint Jean Bosco, de Fontanière chez Spes. C'est une gerbe très, très, très amusante, très intéressante. Et il disait à des correspondantes toutes sortes de choses admirables qui sont reconnues, qui sont réunies dans Écrits spirituels, présentés par Joseph Aubry aux éditions Nouvelle Cité. De très, très beaux textes de Don Bosco, c'est là qu'on voit que c'est un grand saint. Enfin, il y a toutes sortes d'ouvrages. Il y a même de Jean-Paul II, un petit ouvrage, dont Bosco éducateur, les Salésiens de Saint-Jean Bosco, qui sont des missionnaires des jeunes, dont Bosco les mis des jeunes, et des tas de brochures magnifiques. Son écriture est superbe. J'ai lu de ses lettres dans l'écriture même. C'est magnifique. Un saint à notre dimension, qu'on peut suivre au moins, comme une souris suit un éléphant. On n'a pas toutes les mêmes charismes.